Non, c'était pas la même affaire.
Pensez
de toute façon, c'est sans importance pour les besoins de la conversation.
C'est M. Propane.
C'est dans le propane, pareil. Et aussi, qui a été co-président pour les Jeux du Québec avec Marie-Pierre Boudreau-Gagnon. Ouais. Bon, on verra pour la suite des choses. Honnêtement, moi, c'est quelqu'un que je connais de nom et de visage. Mais pour le reste, au niveau des accomplissements ou quoi que ce soit, je n'en sais absolument rien, mon cher Gilles. Mais ça pourrait mettre un peu de piquant dans la patente si on avait les élections. Non, moi, j'avais entendu ou bien l'autre, mais vois-tu ton argument concernant Saint-Antonin? Moi, si je voulais me présenter maire à Saint-Antonin, puis qu'on m'accusait d'avoir fermé la caisse populaire, j'irais me présenter à Rivière-du-Loup, c'est sûr. On s'en va du côté des nouvelles de Cogeco.
Les actualités Cogeco Nouvelles.
Lundi 5 mai, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, l'enquête du coroner qui a débuté aujourd'hui à la suite du décès d'un homme tétraplégique pourrait avoir plusieurs répercussions. La mort de Normand Meunier a mis en lumière les défis des soins aux personnes paralysées. Annie Guillemette.
Normand Meunier avait 76 ans. Lors d'une énième hospitalisation à l'hôpital de Saint-Jérôme, il est revenu dans un piètre état. L'infirmière qui s'occupait de lui à la maison a témoigné qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Une des plaies mesurait 15 cm de longueur. Sa conjointe, Sylvie Brosseau, avait peu de mots pour décrire la situation.
Il n'y avait plus de fesses. C'était gratté, là. Il n'y avait plus rien.
Elle souhaite que l'enquête du coroner Dave Kimpton débouche sur une méthode de soins unique.
Il va falloir qu'ils travaillent en équipe. C'est un protocole qu'il faut suivre.
Son avocat, Maître Patrick Martin-Ménard, estime que cette enquête devrait avoir des répercussions dans tous les établissements du Québec concernant les soins offerts aux personnes vivant avec une lésion de la moelle épinière.
Il y a une réflexion à avoir, je pense, sur la façon dont le système de santé descend à cette clientèle-là.
Près de 40 témoins viendront à la barre d'ici le 6 juin. Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles, Montréal.
L'administration Trump veut payer les migrants illégaux pour qu'ils quittent volontairement les États-Unis. En plus du billet d'avion, le département de la sécurité intérieure indique qu'il paiera 1 000 $ à ceux qui prouveront qu'ils sont retournés dans leur pays. Ces personnes peuvent annoncer leur auto-expulsion sur une application et ne seront ainsi pas ciblées par les agents d'immigration pour les détentions et expulsions de migrants. Donald Trump veut ainsi que des millions de migrants quittent son pays.
But what we thought we'd do is a self-deport. Where we're going to pay each one a certain amount of money, and we're going to get them a beautiful flight back to where they came from.
Chez nous, un regroupement de travailleurs étrangers dénonce les abus de l'agence de recrutement et de placement des employés Iris. L'agence aurait exploité des travailleurs africains en les louant à des entreprises tierces et en ne leur versant pas leur salaire. Thomas Mercier.
L'entreprise Iris, détenue par Dieudonné Nidoufacha, est poursuivie pour près de 100 000 $ en salaire impayé. Les travailleurs et travailleuses réclament également leur feuille de paie ainsi que leur relevé d'impôts nécessaires à leur démarche en immigration. Une travailleuse désirant rester anonyme par peur de représailles explique la détresse dans laquelle elle et ses collègues sont plongés depuis maintenant des mois.
Pourquoi est-ce que certaines personnes doivent choisir de faire du mal à d'autres personnes? Et pourquoi est-ce que parfois, moi, je me dis, le gouvernement reste comme un peu muet? Qu'avons-nous fait de mal?
Les travailleurs et travailleuses détenaient également un permis fermé avec l'agence de placement et n'était donc pas autorisé par Immigration Canada à œuvrer pour un tiers. Une directive complètement ignorée par M. Nidoufacha et qui menace donc ses travailleurs d'expulsion. Laura Doyle Péan du Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes soutient que les permis fermés mènent à ce type d'abus.
Les employeurs savent que les travailleurs et travailleuses n'ont pas le gros bout du bâton.
Du côté des élus provinciaux, tous les partis de l'opposition ont demandé un resserrement des règles en la matière. Thomas Mercier, Cogeco Nouvelles, Montréal.
De petites et moyennes résidences privées pour aînés risquent de fermer avec la fin d'un programme d'aide financière de Québec. Il aidait pour des travaux de modernisation alors que les RPA doivent se conformer à de plus de réglementations. Le PDG du regroupement québécois des résidences pour aînés, Marc Fortin, illustre l'impact que pourrait avoir leur disparition complète.
Imaginez-vous si moi je remets 130 000, 135 000 aînés sur le marché du logement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une explosion des coûts, il n'y aura plus de disponibilité. Mais c'est cette pression-là aussi qu'on enlève. On fait partie de l'écosystème. L'écosystème du logement, l'écosystème des soins dans les catégories 4. Puis il faut le voir en partenariat. Malheureusement, dans la santé, souvent, un partenaire privé, c'est un gros méchant avec des cornes sur la tête.
Il ajoute qu'il en coûterait 5,7 milliards de dollars au gouvernement pour remplacer les soins et les services fournis par les RPA. Et au sport, c'est ce soir à 19h qu'aura lieu la loterie du repêchage dans la LNH. Le Canadien possède le 17e choix, mais aussi la première sélection des Flames, qui pour l'instant est la 16e. Selon les règles, se rend peut grimper d'un maximum de 10 places. Vous écoutez Cogeco Nouvelle.
En montant dans une Prius hybride branchable toute neuve, vous pourriez tout d'un coup accepter de conduire des amis à un festival de musique au beau milieu de nulle part. Même si la musique est d'un style dont vous ignoriez totalement l'existence avant ce matin, tout ce qui reste à faire, c'est de la ramener à la maison. Pour découvrir de nouveaux modèles épatants comme la Prius hybride branchable, visitez achetezmatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire du Québec et repartez en Toyota.
Ciel FM. Pierre Lebel. Dans le retour.
16h04, météo 9. Alors, ça donne ceci. On arrive avec du temps dégagé pour ce soir et cette nuit, plus 2. Ça sent nuage demain matin. Pas de nouveau de ce côté-là. Un peu venteux, 40 km/h en rafale. Maximum à 19. Des nuages durant la nuit de mardi à mercredi. Mercredi, on a de la pluie et 14, ça a baissé un petit peu. On parlait de 16 dans la météo précédente. Jeudi, de la pluie intermittente avec 5. Vendredi, du temps nuageux avec 7. Il y a quand même 60 % de probabilité d'averse. Ça reste nuageux pour samedi avec 13 et pour dimanche 11, alternance soleil-nuage et maximum 14 pour la fête des mères. Présentement, sur Rivière-du-Loup, on a 12. Merci à Christian qui nous dit Christian Pelletier, un autre. Christian qui nous dit c'est la cantine Sainte-Flavie et la cantine des navigateurs. En fait, la cantine Sainte-Flavie est comme sur le bord de la 132, si ma mémoire est bonne, puis celle des navigateurs est comme sur la petite route qui longe le fleuve, là. Tu sais, un peu comme la route du fleuve puis la route de la montagne à Notre-Dame-du-Portage, un peu semblable à ça. Et c'est ça, c'est la cantine des navigateurs. Ça, c'est celle où on va habituellement. Il y a moins de monde, puis pour avoir déjà mangé à l'autre, c'est du pareil au même, là.
Ouais. Moi, j'ai déjà mangé une poutine au Bic.
Ouais.
Il n'y a pas de crevettes dedans, ça a coûté 34 piastres.
Oui.
il fallait que ce soit des patates.
Gilles, la prochaine fois, tu commandes une frite sauce, tu amènes ton fromage et tes crevettes.
Il faudrait qu'il se bat.
Oui. OK. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier, là? Oui, le prix de l'essence. Prix de l'essence, prix moyen à la pompe, 1,52 $. À Rivière-du-Loup, 1,54 $. Et le prix réaliste, selon CAA Québec, 1,59 $. Donc, la morale de l'histoire, c'est à Rivière-du-Loup, on est en plein milieu, mais selon le prix moyen à la pompe au Bas-Saint-Laurent, on paie le prix de l'essence trop cher. Des billets pour aller voir le spectacle de Roxane Bruno. Sauf que vous ne m'appelez pas, vous allez texter 860-6743 418-860-6743. Vous allez nous texter et c'est pas compliqué. Dans votre texto, la seule chose que vous avez à marquer, c'est « J'aime Roxane Bruno ». J'aime Roxane Bruno. Et moi, à partir des textos que j'aurai reçus au 860-6743, 418 avant, j'imagine bien, je vais faire tirer une belle paire de billets pour aller voir Roxane Bruno au Centre culturel. C'est mercredi qui s'en vient, mercredi le 7 mai.
Pour revenir, Daniel, au prix de l'essence.
Oui.
J'ai rencontré quelqu'un en fin de semaine, une connaissance. On a discuté du fameux 5 sous, le litre,
oui,
pour l'essence d'été.
Oui.
Le monsieur me dit, c'est quoi cette affaire-là?
Oui.
Il dit, j'ai passé une partie de ma carrière dans une raffinerie, moi, à travailler à Montréal. Puis, lorsqu'on parle de faire du diesel, là, oui, on a des additifs qui sont différents de l'été et de l'hiver. Il dit, à part ça, c'est de la bouillie pour les chats. Il y a une recette, puis on tient cette recette-là. Puis, que ce soit l'été ou l'hiver, il n'y a pas rien de spécial de mis dans l'essence qui peut justifier 5 sous le litre.
As-tu rencontré Mario?
Mario.
Mario qui nous envoie des commentaires sur le prix de l'essence.
Non, j'ai rencontré une grande connaissance qui s'appelle Marc et il m'a expliqué ça en fin de semaine. Puis il dit arrêtez de faire remplir par les pétrolières. Lui, il a passé une partie de sa carrière à Montréal à travailler dans les raffineries. Il est retraité puis il s'est établi en région.
Ça va exactement dans le sens de ce que Mario nous a écrit il y a une semaine et demie, deux semaines, en nous disant que ça n'avait pas d'allure. Je pense que Mario nous avait parlé du diesel.
Ouais.
Entre autres, oui, effectivement, il y avait un additif là-dedans. Kevin Volley va venir nous voir dans quelques minutes. J'ai vu passer, ça m'a attristé parce que c'est un spectacle que j'ai déjà vu. J'avais vu ça à Laval, le spectacle Cavalia. As-tu déjà vu ce spectacle-là?
Non.
C'était bon. Je me rappelle d'avoir vu ça sous un très, très grand chapiteau à Laval. Ça doit faire, ma foi, peut-être une quinzaine d'années autour d'eux. En faillite. En faillite. Doivent fermer les livres. Écoute, on parle d'une dette qui s'élèverait à plus de 20 millions de dollars. C'est énormément de fric. Et Cavalia, ben, c'était un spectacle qui était présenté mettant en vedette des chevaux. Et bien mais, sûr, il y avait des humains de mêlés à ça, là, mais les vedettes, c'était les chevaux.
Mais Daniel, malgré le fait que ce sont des activités, des événements d'envergure très populaires, ça jouait pratiquement à guichet fermé tout le temps, oui. Ça prouve une chose. Oui. Ces activités-là, même s'ils sont financés, sont subventionnés, c'est pas rentable.
Oui, absolument, absolument. Écoute, on dit que le coup de grâce aurait été la fin en queue de poisson du spectacle Illumi à Laval, qui a fait l'objet d'une demande d'injonction par la ville de Laval, car Cavalia n'a pas démantelé à temps ses installations sur le terrain appartenant à Laval. Les procédures judiciaires sont suspendues en raison de la faillite. On dit que ça a été le coup de grâce. Mais bon, pour le reste, là, on dit qu'ils ont été particulièrement mis à mal par la pandémie, qui a été dévastatrice pour de nombreux acteurs de l'industrie culturelle. Bon, on sait ça. Et ça a été fondé en 2002. Ils ont évolué pendant près de deux décennies, qui ont rejoint des millions de spectateurs partout dans le monde. Et on dit qu'à partir de 2019, elle a commencé à délaisser les chevaux pour offrir des spectacles de parcours lumineux. Et ceux-ci ont été offerts à Laval et à Terrebonne, mais aussi en Ontario, à Singapour et à Los Angeles.
Malheureux, mais regarde.
Ouais. Non, moi, j'ai vu ça. J'avais aimé ça beaucoup, d'autant plus que j'ai été dans ma vie propriétaire de chevaux, domaine équestre. Et je fais un saut, Gilles. J'ai vu plein d'images parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux grandes finales de la triple couronne que sont le Derby du Kentucky, le Preakness et le Belmont Stakes. Et en fin de semaine, c'était le premier qui était couru, c'était le Derby du Kentucky. Et je parlais de ça avec Kevin Bowley ce matin en disant que tous les chevaux qui étaient dans les barrières de départ étaient tous des descendants de Secretariat qui détient encore le record de piste qui remonte à 1972 ou 1973, alors que Ron Turcotte était le jockey de Secretariat. Alors, c'est quand même intéressant de voir que dans une course... tout le monde, quand tu vas dans son arbre généalogique, il y a du Secrétariat. Et le Derby du Kentucky s'est couru dans la boîte. Et c'est pour ça que je m'amusais à dire que les chevaux qui sont revenus à la ligne d'arrivée étaient tous de la même couleur et les jockeys aussi.
Mais c'est dangereux, Daniel. Tu aurais pu perdre des chevaux de qualité. Glisser, se casser une patte.
Non, probablement que le fond de terrain... Et, écoute, là, tu sais, on parle de chevaux qui valent aujourd'hui peut-être 10 millions, 15 millions, 20 millions. J'en ai aucune idée. Alors, sûrement que les conditions de terrain sont à ce point fiables que peu importe si t'as de l'eau ou si t'en as pas, tu cours pareil. Mais ils sont sortis de là de la même couleur. Toute la gang. Mais j'ai une chose, moi, qui m'a étonné là-dedans, vraiment, là, c'est de voir les chapeaux des dames lors de ces événements-là. Je me demande s'il y a un autre événement dans le monde, mais pas dans le tennis, pas dans le baseball, pas dans le hockey, pas dans le soccer, tu vois pas ça, où les femmes arrivent avec d'immenses chapeaux, avec des fleurs là-dessus, puis des rubans, puis tout ce que tu veux, puis pas des... je veux dire, pas pour... comment je te dirais bien ça? Donc, pas pour amuser le monde, là. C'est... ultra chic comme tenue. Il y a des codes vestimentaires pour rentrer là. Puis non, c'est très particulier. Mmh. Il y a du gros argent qui se brasse là. Naturellement, les propriétaires de chevaux, souvent c'est en syndicat, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs propriétaires sur un même cheval, arrivent pas là habillés comme des pauvres et particulièrement pas les dames.
Puis ils n'ont pas de glacière avec eux autres non plus.
D'après moi, ils n'ont pas le droit d'amener leur bière. Ça m'étonnerait. On va jaser moustiques le 9 mai prochain à Saint-André-de-Kamouraska. Ça fait des années que tu nous parles des moustiques,
Gilles. Oui, parce que les moustiques à Saint-André sont comptabilisés puis sont contrôlés. On a développé une méthode qui est efficace, Daniel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là-bas, les citoyens sont taxés. On a une taxe spéciale sur le compte de taxe municipale, mm-hmm. la taxe moustique. Et de mémoire, c'est aux environs de 50 quelques dollars par année que les gens doivent payer. Mais au centre du village, c'est efficace.
Ouais.
Alors là, on fait quoi? Vendredi de cette semaine, le 9 mai, le comité de citoyens là, qui s'occupe pour la diminution de la nuisance des moustiques, on aura un 5 à 7 qui est au centre des loisirs, bon, avec Amuse-Gueule et Brevard. On va discuter de ce phénomène-là. On va jaser moustiques et je te dirai que c'est un phénomène qui